On vient d'accueillir une viroise dans la Mystery Machine, Audrey Lecoué du musée de Vire Normandie. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour, ça va, merci.
C'est gentil d'être venu dans la Mystery Machine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein du musée ?
Oui, alors moi je suis médiatrice culturelle au musée. Donc mon rôle en fait ça va être à la fois de faire les visites guidées pour les groupes ou les individuels qui viendraient, mais aussi de concevoir en amont des ateliers, des visites, tout ce qui permet de faire le lien en fait entre les collections du musée et puis le public qui vient nous voir.
Et en ce moment il y a du monde, c'est les vacances.
C'est les vacances, donc voilà, on a les touristes, les familles qui viennent visiter notre musée.
Le musée prend pas de vacances lui du coup.
Non. Ah,
c'est
non,
terrible,
non.
Du coup toi tu bosses tous les jours. Qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver justement ces touristes, ces familles en ce moment au musée de Vire ?
Alors, le musée, il est assez large, donc c'est un musée de société, un musée de territoire, donc il va vraiment parler de Vire, du bocage virois, et donc on a trois niveaux. Le premier niveau, c'est plutôt chronologique, donc là, les visiteurs vont pouvoir retrouver l'histoire de Vire depuis la préhistoire jusqu'à la reconstruction, donc après les bombardements. Et puis ensuite, on a un premier étage qui est plutôt consacré à des thématiques précises autour du bocage, donc les industries qui se sont développées sur le bocage. On a aussi des costumes, la gastronomie, des peintres. Et puis alors cette année, comme tous les ans, en fait, on a une exposition temporaire tout le long de la saison. Et donc cette année, on a Home Sweet Home, une histoire du chez-soi, qui revient en fait sur l'évolution du confort à la maison à partir du 19e siècle, qui va de pair avec les avancées technologiques et sociétales de l'époque.
Bah, comment il a évolué justement ce confort ?
Bah, en fait, il va évoluer de manière à ce que ce qui avant était plutôt réservé à des privilégiés deviennent la norme un peu pour tout le monde.
Comme la télé, par exemple. Alors
la télé, ça vient assez tardivement dans ce confort. Il n'y a rien que, ça va être l'accès au chauffage, avoir des pièces.
Oui.
On remonte vraiment avant l'électricité.
Et est-ce que du coup vous travaillez avec les habitants pour faire du coup partager cette mémoire, faire vivre cette mémoire locale et du coup de pouvoir avoir des témoignages?
Alors en fait sur l'exposition, sur la partie permanente, on retrouve dans notre parcours permanent des témoignages de Virois, notamment par exemple qui ont connu les bombardements et qui nous racontent comment ils ont vécu ça, leurs souvenirs d'enfants, parce qu'ils étaient enfants à ce moment-là. Donc on va avoir certains témoignages à des endroits du musée.
Et est-ce que pour ce confort, il y a des exemples dans le musée, donc par exemple les canapés d'époque, des photos de maisons d'avant pour qu'on puisse se rendre compte, nous aujourd'hui, comment c'était un petit peu la norme d'une maison chez
Alors,
les rois de l'époque?
On a des tableaux, on peut avoir des photographies aussi, alors qui ne sont pas nécessairement de Vire, hein, qui vont être d'un petit peu plus loin. Donc on a des tableaux qui représentent ça, des photographies, on a aussi des éléments, des objets qui nous rappelle comment on pouvait se faciliter la vie, notamment par rapport au chauffage, au moment où il n'y avait que la cheminée qui nous permettait de nous chauffer. Donc on va découvrir un petit peu tout ça tout au long de la visite. Et puis après, les éléments qui vont vraiment aider à l'entretien de la maison, l'évolution qu'ils vont avoir aussi.
Qu'est-ce qui a permis justement cette évolution du confort ?
C'est vraiment un mélange entre avancée d'état d'esprit de la société et puis un mélange aussi avec la technologie, les techniques qui vont avancer au fur et à mesure et donc qui vont permettre de plus en plus de confort.
Et qui vont être plus accessibles ?
Le but c'est que ce soit plus accessible, alors ça prend forcément un peu plus de temps chez certains que d'autres, mais oui.
Et avec ce genre de projet, est-ce que vous travaillez avec les écoles pour justement leur apprendre ce genre de choses?
Alors nous, on reçoit des groupes scolaires pendant toute l'année scolaire, hein, donc effectivement, qui vont pouvoir visiter les expositions permanentes comme les expositions temporaires pour en apprendre un peu plus sur ces sujets-là.
Il y a des journées spéciales?
Alors on va avoir, nous déjà par exemple, on a tous les premiers dimanches du mois, c'est gratuit, le musée est gratuit.
Trop bien.
De 10h à midi et demi, de 14h à 18h, les gens peuvent venir gratuitement tous les premiers dimanches du mois.
Et est-ce que tu sens qu'il y a plus de monde justement ces dimanches-là?
Alors on va avoir, des habitués qui vont venir plusieurs dimanches parce que ça permet de... Parce que c'est un musée qui est quand même, où il y a beaucoup beaucoup de choses, donc parfois une seule visite ça suffit pas, donc c'est aussi l'occasion de venir en découvrir un petit peu plus... tout au long de l'année.
J'ai eu la chance d'y aller, il faut bien réserver sa matinée, voire son après-midi, parce qu'il y a quand même énormément de choses à voir, et on y passe très vite, 2 voire 3 heures, et notamment sûrement surtout les photos d'avant-guerre, justement, qui montrent ce qu'était Vire avant les bombardements, et ça c'est
effectivement,
c'est
effectivement, on a toute cette partie où en fait on a la possibilité de naviguer un petit peu dans Vire à différentes époques grâce à un écran numérique, et qui nous montre beaucoup de photographies de Vire avant, donc c'est vrai que si on regarde tout, si on lit tout, oui, ça peut prendre plusieurs heures.
Et en plus, le musée est dans un lieu magnifique. Léo, tu nous en parlais, c'est peut-être le plus beau bâtiment de Vire.
C'est vrai que le musée est situé dans l'Hôtel Dieu, l'ancien Hôtel Dieu, qui est effectivement un très beau bâtiment. Et puis, on a un musée qui a été refait en 2021, donc qui est quand même aussi très récent, et qui nous permet, on a une nouvelle scénographie qui permet aussi à tout le monde d'y trouver son compte, des plus jeunes aux plus âgés, parce qu'on a aussi un parcours qui est adapté pour les plus jeunes, et on fait en sorte d'ailleurs que ce soit adapté.
Et est-ce que justement avec les expositions d'avant-guerre, vous proposez des conférences avec des témoignages?
Alors après ça va dépendre de notre programmation qui change tous les ans, qu'on fait autour de différentes thématiques, qu'on axe aussi beaucoup sur l'exposition temporaire. Donc là par exemple, non, on n'en a pas cette année. C'est vraiment en fait quand on fait notre programmation, on décide un petit peu, on voit, puis on essaie aussi de mettre en avant quand même l'exposition temporaire qui dure plusieurs mois et voilà.
Il y a les jardins aussi.
Et on a les beaux jardins du musée bien fleuris.
Donc en fait, si on résume, il y a un bâtiment magnifique, des expositions temporaires et permanentes il faut prendre le temps pour les découvrir, plus des jardins. J'ai peut-être dit ça déjà.
Oui. De l'écluse aussi, enfin, c'est magnifique, c'est aussi très beau. Ouais.
Donc en fait, c'est vraiment, limite, on peut prendre une journée à Vire pour visiter tout ce lieu et toutes ces expositions.
Oh bah oui, je pense qu'effectivement, si on aime apprendre, si on aime découvrir, on a largement de quoi faire.
Limite, si on vient à Vire, au lieu de se balader dans les rues de Vire, il faudrait
peut-être
aller au musée.
Non.
Olivier va pas être content. Ça,
je vais quand même.
Je suis sûr que tout le monde soit d'accord.
Non, je vais quand même inviter les gens à visiter Vire. Il n'y a pas que le musée.
Qui sont belles à Vire.
Voilà.
Non, tu sais bien vendre les choses.
Il y a la porte horloge aussi, c'est quand même cool.
N'écoutons pas ceux qui sont passés avant.
Attention à ceux qui passeront après aussi, parce que d'autres choses à présenter.
Donc. Merci beaucoup, Audrey. J'aimerais revenir un petit peu sur ton rôle de guide. Qu'est-ce que tu penses qu'il est important d'apporter en tant que guide lors, par exemple, de cette exposition permanente ou lorsque tu fais visiter cette exposition permanente?
En fait, ce qui est important quand on est médiateur, la première chose, c'est que c'est l'adaptation. Parce que tous les publics sont différents, les âges, les compréhensions. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour vous expliquer, ça va faire que nous, on va adapter notre discours déjà à la personne, aux personnes qu'on a en face de nous. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter les choses pour des gens parfois qui sont... qui savent pas trop comment visiter ou qui hésitent un peu, nous on est là comme facilitateur aussi de transmission.
Et ça c'est important.
Oui.
Est-ce que t'as l'impression que les gens s'arrêtent moins sur les œuvres? Passent trop vite sur certaines œuvres et justement avoir un guide ça te permet de te poser, de comprendre peut-être un peu plus, de découvrir les détails cachés?
Pas nécessairement, parce que je pense qu'en fait les gens ils s'arrêtent sur des thématiques qui les intéressent plus ou moins aussi, parce que c'est vrai qu'en plus comme nous on a un musée qui a beaucoup de sujets, mais c'est vrai que ça peut, en plus de ça, ça peut aussi permettre de donner un autre regard sur une œuvre, de le voir un petit peu différemment, parce que nous on va le présenter d'une certaine manière, les visiteurs l'avaient peut-être pas vu comme ça, et donc voilà, c'est...
Et justement, est-ce que t'as déjà eu une anecdote assez amusante d'un visiteur qui a pu dire quelque chose
qui n'avait pas du tout compris l'œuvre dans le bon sens?
Très honnêtement, là, comme ça, pas vraiment. J'ai pas d'exemple qui me vienne.
Ou un souvenir marquant qui a pu se passer au musée, qui t'a vraiment touché.
Après, c'est le cas notamment avec l'exposition de cette année, parce que on a donc des publics qui ont vécu en partie le manque de confort.
C'est
et
sûr.
Donc pour eux, ça ravive des souvenirs et c'est assez assez émouvant de voir ça, de voir que tel objet ou telle chose, ça leur rappelle ce qu'ils ont vécu il y a des souvenir. Dizaines d'années. Mmh. Ouais, c'est ça.
Et est-ce que justement ce genre de projet, ça nous met pas nous-mêmes en pleine réflexion et en se disant, bah, on se plaint beaucoup de...
alors qu'on a alors qu'on vit dans le confort.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est intéressant effectivement d'interroger notre propre confort parce que nous, on part notre exposition à part du fait que bah, le confort minimum finalement, c'est le chauffage, l'accès à l'eau. Mmh. Bon, nous, ça nous paraît tellement normal que c'est même c'est ça. Pas, ça fait pas partie du confort. Enfin, c'est pas voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un moyen aussi de se questionner un petit peu sur bah, nos façons de vivre aussi. Hein, c'est sûr.
C'est vrai, Tatiana, on pourrait vivre dans la Mystery Machine.
Eh oui. Qu'est-ce qui nous en empêche?
On est bien assis, on est confortablement assis sur les sièges de la Mystery.
Il n'en faut pas plus.
Merci beaucoup, Audrey.
Merci beaucoup. Bah, merci à vous
d'être venu dans la Mystery Machine pour nous présenter le musée de Vire Normandie.